Bonjour, j'ai eu du mal à trouver la sonnette, pardon.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à vous.
Bienvenue à l'association.
Eh ben, enchanté. J'ai affaire à qui, pardon?
Eh ben, Joshua et Véronica.
Joshua, Véronica.
C'est ça.
Enchanté,
voilà.
Théo.
Voilà, les présidents enchanté. De l'association Reptilian Protect.
Bah, merci de m'accueillir.
Bah, avec plaisir.
Merci à toi.
Alors, déjà, juste cadre insolite, je suis accueilli par des mues de serpents.
C'est ça, il y en a un peu partout, c'est notre déco.
Comment ça se fait? Où est-ce qu'on est là? Expliquez-moi juste un petit peu, parce que là, il y a des plantes, il y a une maison en bois.
Alors en fait, on est à la maison, on est chez nous, mais c'est aussi le siège de l'association et le lieu principal de l'association reptilienne, où on accueille ici plusieurs dizaines de reptiles issus d'abandon, de saisies ou trouvés sur la voie publique.
Eh bien allez, on y va, je vous suis.
Allons-y.
Les grandes balades, les promenades engagées et instructives de la SPA.
C'est par une matinée pluvieuse que nous vous emmenons en balade aujourd'hui dans les locaux, vous l'aurez compris, de l'association Reptilian Protect, une des associations soutenues financièrement par la SPA. Nous voilà à Chaumeau, au bord de Lyon, dans une petite maison qui pourrait ressembler à celle de vos voisins. Belle pelouse, chien dans le jardin, terrasse aménagée. Sauf qu'ici, tout le monde le sait, derrière ces murs se cachent des serpents, lézards, tortues et autres reptiles, sans compter les insectes qui peuplent les cages. Bien sûr, ils sont tous sous la garde de Véronica et Joshua, en couple au travail comme dans la vie, fondateurs en 2011 de cette association qui s'attelle à redorer le blason de ces animaux méconnus qui font parfois, à tort, froid dans le dos. Cette maison refuge est un havre de paix pour des reptiles abandonnés, maltraités, malades ou saisis qui y sont soignés. Alors bienvenue, installez-vous confortablement, vous allez voir les serpents, c'est beau, c'est grand et surtout c'est doux. Bienvenue à Reptilian Protect.
Alors là, on est dans la première pièce, hein, dans la première pièce où on va trouver les reptiles accueillis, une partie des reptiles accueillis. On va y trouver notamment Loki, l'iguane vert, un iguane vert, Darwin, en dessous, un petit varan des savanes, ou encore certains boas et autres ophidiens, donc des serpents.
Il y a une trentaine d'espèces ici. Loki, je précise, qui est un immense iguane. Hein. Tu as dit ça très normalement, mais là, il y a quand même un immense iguane qui est juste à notre gauche, qui est très tranquillement sur une petite branche. Là.
Ouais, c'est ça, c'est un bon pépère, un petit gars très tranquille.
Qui est arrivé il y a 10 ans à l'assaut maintenant.
C'est ça.
Environ 10 ans à l'assaut, ouais.
Ça fait combien de temps que l'association est ouverte?
Depuis 2011. Voilà, en tant qu'association de fait, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de demander d'aide, etc., mais on avait le droit d'exister. Et en 2018, on est devenu capacitaire, avec autorisation d'ouverture d'établissement, de façon à pouvoir officialiser finalement le refuge et l'association, et puis pouvoir en aider davantage, et puis demander de l'aide aussi, parce qu'on a compris que ça allait être plus prenant que prévu.
Alors, avant de rentrer dans les détails, je veux bien un petit verre d'eau. Ici, pour le coup, on est en pleine nature.
Oui.
On est où?
Alors, on est à Chaumeau, hein, dans Lyon, où c'était une possibilité pour eux d'avoir plus de terrain, d'avoir des installations correctes, de pouvoir trouver un accueil sympa pour terminer leur petite vie ici. Et puis, enfin, terminer, la continuer pour beaucoup, parce qu'il y en a qui arrivent aussi qui sont très jeunes.
On voulait un endroit assez isolé,
ouais.
Qu'on soit assez tranquille. On est là tous les jours, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est ouvert tout le temps, on apporte les appels. Des fois, jusqu'à 2 heures du matin, on est en train de discuter avec les gens pour les aider, pour les aiguiller, etc. Il y a beaucoup à faire. Et on est très discret.
Les voisins, ils savent ou pas?
Oui, ils sont au courant. La mairie est venue, mais surveiller, contrôler. Mais du coup, tout le monde est assez surpris parce que quand on dit refuge reptile, les gens, je ne sais pas, des fois, ils s'imaginent avoir des trucs un peu glauques, c'est sombre partout, on rentre dans un univers un peu particulier. C'est pas du tout ce qu'on veut montrer. Le but, c'est que quand les gens ils arrivent, ils voient que c'est propre, entre guillemets, que tout va bien, que les animaux vont bien. Ici, vous verrez pas de ce qu'on appelle des racks, des tiroirs, où on expliquera ça, mais les serpents ont l'habitude de vivre dans des tiroirs. Ici, nous, c'est hors de question. On préfère leur donner plus de place, eux, en avoir nous moins, pour qu'eux puissent vivre mieux que ce qu'ils ont connu, en tout cas.
On en voit un dans le salon. Du coup, je veux bien qu'on continue la visite.
Les grandes balades.
Là, on était dans la cuisine, on va dans le salon et tout de suite, il y a des animaux un peu partout.
Effectivement.
Déjà, il y a deux chiens. Même un troisième sur la terrasse. Est-ce que tu peux nous dire, Véronica, là, ce qu'on a autour de nous? Au-dessus de nous, en dessous de nous, à côté?
Eh bien ouais, alors là, on est dans une déco qui commence tout juste à se faire, hein, parce que la maison, elle a été à l'abandon pendant longtemps. Donc on l'a reprise il y a juste quelques années, donc la déco n'est pas encore refaite à notre sens. Mais en tout cas, on y arrive doucement, dans un esprit jungle, nature, ramener un petit bout d'Amazonie ici. On ne peut pas les ramener chez eux. Alors le but, c'est de ramener leur nature ici. Voilà.
Donc là
donc
encore,
on est entouré de mûres, de branches, de lianes, de plantes,
de bambous.
Oui, c'est ça, de bûches, de pierres, de.
C'est ça. Et on aime beaucoup le bois. On aime beaucoup le bois, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites maison.
Qu'est-ce qu'on a comme type d'animaux ici dans le refuge ?
Alors, on va trouver principalement, évidemment, des reptiles. Des reptiles, on peut accueillir de temps en temps d'autres espèces, hein, s'il y a le besoin. Par contre, c'est vrai qu'on est spécialisé sur les reptiles parce qu'il n'y avait pas d'autres structures pour eux ou pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de structures, en tout cas pour eux. Et c'est vrai que, du coup, on va trouver des reptiles, donc des ophidiens, des serpents, des sauriens, des lézards et des chéloniens, des tortues, tout simplement.
En parlant d'ophidiens, là, il y a une belle bête derrière. Oui. Est-ce que vous pouvez me la présenter ?
Bien sûr. Alors, elle s'appelle Salvatore. Hein, c'est un boa impérator qui doit avoir une quinzaine d'années à peu près. Elle est arrivée adulte à l'association. Hein, c'est une boa qui a été saisie par la police et puis qui est arrivée ici il y a maintenant à peu près 2 mois.
Ah, 2 mois seulement, ok. C'est qui est très calme pour le coup.
Ouais, ils s'y font très vite.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce salon ? Je vois un autre serpent par là-bas. De l'autre côté, il y en a encore 2. Il y a des tortues.
On va y retrouver effectivement après une beauté bleue du Vietnam. Donc un Elaphtaeunurus calicianus, qui est une espèce de couleuvre asiatique. Hein, qui, bon, pour le coup, lui, il s'appelle Cobalt. Hein, c'est un petit jeune qui est très sympa.
Qui serpente tranquillement là-bas.
C'est ça, complètement. On va y retrouver Cajou et Bumblebee, donc deux pitons réjus hein, qui proviennent d'abandon et qui sont très sympas, qui font leur petite vie ici également. Un Sanzinia madagascariensis, hein, qui s'appelle Litchi, qui a 38 ans. Aujourd'hui. Et puis des Osteopilus septentrionalis, donc des rainettes de Cuba.
Tu as dit 38 ans, aujourd'hui, c'est pas son anniversaire.
Alors non, pour le coup, c'était il y a 2 jours certainement, parce que d'après les papiers qu'on a eus, il y a 2 jours, c'était son anniversaire.
Ah bah on n'est pas loin.
On n'est pas loin.
Est-ce qu'on peut aller la voir ?
Bien sûr.
Là, le, je ne sais pas.
Eh bah, ben le voir. Tu veux que je te l'ouvre ?
Ah bah oui, je veux bien que tu l'ouvres, ouais. C'est une première. Je ne sais pas si les auditeurs ont souvent touché un serpent dans leur vie. Ça se manipule facilement, un serpent
oui,
comme
très
ça
facilement. Très, très facilement. Même pour des animaux qui ont été quelquefois très, très mal habitués ou qui ont eu de mauvais conditionnements, ils se manipulent très, très simplement et très facilement.
Donc là, tu as la main dans le terrarium,
oui,
tu l'attrapes tranquillement, il
c'est
se laisse faire.
Oh bah oui, et puis à force, ils s'habituent. Déjà, d'une part, pour eux, c'est important d'être habitués aux manipulations. Et puis d'autre part, honnêtement, pour nous, d'avoir un animal qui est habitué, c'est tellement plus agréable quand il faut aller le chercher dans le terrarium.
Ah, donc là, tu l'as dans les mains, il est sorti.
C'est ça.
Il s'enroule tranquillement. Je peux toucher ?
Bien sûr. C'est ça, alors, hein, pour les gens qui vont dire qu'un serpent, c'est froid et c'est visqueux, c'est faux.
Bah, c'est pas froid et c'est pas visqueux.
C'est doux, c'est chaud, et quand il est aux bonnes températures, parce qu'il faut rappeler que les reptiles, ce sont des animaux qui sont ectothermes, hein, ou poélicothermes, donc c'est-à-dire que la température de leur organisme dépend intégralement de la température de l'environnement. Hein, donc, ils peuvent pas se réchauffer au même titre que nous, qui sommes endothermes, avec un pull, donc une couette, etc. Donc, il va falloir que la température externe soit correcte, et si la température et les paramètres sont bons, si l'animal n'est pas dans l'eau, dans une grotte ou dans un lieu très humide, il sera toujours doux et toujours chaud. Hein, c'est vrai que toujours, en fonction d'où il est placé, s'il est sur un point chaud, il sera bien chaud.
Et là, on voit qu'il y a sa petite langue qui sort.
Exact.
Quoi, il scanne ?
C'est ça. Alors en fait, sa langue sort parce que ça lui permet de capter toutes les particules présentes dans l'environnement. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un organe qui est situé au sommet du crâne, qui s'appelle l'organe de Jacobson, hein, qui permet de prendre le relais. Une fois que la langue est sortie et lui a ramené les infos, il prend le relais et puis en fait analyse tout ce qu'il y a autour. Un prédateur, même l'humidité, le tout dans la qualité de l'air, l'eau, les prédations éventuelles, donc les proies éventuelles, des partenaires éventuels. Hein, ça lui permet de capter absolument toutes les infos qu'il y a autour de lui. Et donc c'est uniquement pour ça qu'il va sortir sa langue en permanence.
On continue la visite ?
On y va.
Je vous suis. Donc là, on descend les escaliers.
C'est ça, on retourne juste dans l'entrée. Et là, maintenant, on rentre vraiment dans la partie association.
Voilà, on arrive à l'assaut, puis à proprement parler.
D'accord.
C'est ça.
Donc là, il fait tout de suite plus chaud.
Ouais,
il fait
encore,
combien ici ?
Alors là, on doit avoir aux alentours
27,
de 25 degrés.
25,
on a 25 dans la pièce. Normalement, on essaye d'avoir une pièce qui est au minimum à 27, 28.
Et alors là, par contre, on est entouré de terrarium.
Oui.
principalement serpents. Fais-moi oui, un peu, parce qu'il y en a partout. Là.
C'est ça. Alors là, sur ta droite, hein, tu as Dagon et Enki. Donc un python birman et un python réticulé.
Python birman qui est jaune, qui est immense. Là.
C'est ça. Alors voilà, un python bivitatus molurus et malayopython reticulatus. Donc deux espèces de serpents asiatiques qui sont des grands serpents, qui font partie des serpents dits géants. Un python réticulé peut facilement atteindre 6-7 mètres de long. Et puis, on est sur pas loin, pour une grande femelle adulte, en tout cas, on peut atteindre 5-6 mètres de long aujourd'hui sur un python birman. Donc, c'est vrai qu'on est sur des grands serpents. Ensuite, on accueille pour le coup un Polypterus sénégalus. Donc, tu auras du mal à le voir. C'est un petit polyptère du Sénégal. C'est un poisson. Un poisson qui a la particularité d'avoir aussi des poumons et de pouvoir sentir en dehors de l'eau. Hein, et de pouvoir respirer plusieurs heures en dehors de l'eau, voire plusieurs jours. Hein, donc très particulier.
Là, on a un aquarium hein, devant nous pour décrire. Donc, effectivement, on ne voit pas ce poisson.
C'est ça. Alors, il doit être planqué avec, dans la végétation ou dans les rochers ou dans les racines. À côté de toi, là, tu as des couleuvres.
Vous accueillez du public ici ?
Non, du tout. Hein, l'établissement est fermé au public, simplement parce qu'honnêtement, jusque-là, on ne prend pas le temps. On s'occupe beaucoup de l'association et d'activités à côté. On fait de la sensibilisation, on se déplace pas mal pour faire ce qu'on a à faire et puis essayer à notre petit niveau d'aider ces populations d'animaux. Puis il y a le côté où il y a les autorisations. Hein, et les autorisations, c'est vrai que ça demande un certificat de capacité pour la présentation au public que l'on n'a pas encore demandé. Voilà, donc peut-être un jour, quand les installations sont complètes, terminées, peut-être qu'on demandera la présentation au public.
On parle beaucoup des serpents comme des nags, des nouveaux animaux de compagnie. C'est des animaux qui sont à la mode aujourd'hui. Ceux-là ou ceux-là ne font pas partie des serpents qu'on peut retrouver dans les maisons. Quel rapport vous avez à ça ?
Franchement, honnêtement, ils ne devraient pas être mis dans les nags. Tout simplement, un serpent n'est pas un animal de compagnie.
Les nouveaux animaux de compagnie, c'est vrai.
C'est ça, c'est pas un animal de compagnie. C'est pas... Aujourd'hui, l'humain, dès qu'il a un animal, qu'on va même dire gentil, il pense qu'il peut lui faire un câlin. L'iguane, qui est juste à côté, là, est très gentil. On le nourrit à la main. Il est venu ici parce qu'il en a coupé trois, juste avant. C'est pas un animal où on fait des câlins.
Il a coupé trois doigts.
Oui, il a coupé trois doigts.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui. C'est pas les reptiles, c'est pas des animaux où on peut avoir... Il va y avoir un lien avec certains reptiles auxquels on va être plus proche. On pourra vraiment parler de lien. De là à dire qu'un animal, un serpent, c'est un animal de compagnie, on peut lui faire des câlins, on peut... Non.
C'est vrai que comme tu viens de le souligner, ce ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des animaux sauvages que l'on force à vivre en captivité. C'est pas pareil.
Je précise que cependant, pendant tout ce temps-là, toute cette petite explication, tu manipulais le serpent tranquillement dans tes mains, qui est là.
Oui, bien sûr.
Pas de souci. Ah, et je suis vraiment surpris par la douceur de cet animal.
Ouais. Très doux, aussi bien dans le comportement, dans le caractère. C'est un animal très timide qui a besoin d'être mis en confiance pour pouvoir se montrer, qui a besoin d'être vraiment bien, en fait, d'être vraiment en confiance totale. Là, c'est un petit serpent devant toi qui est aveugle, hein, comme tu peux le voir. Bon, voilà, pour les auditeurs, il a les yeux noirs, mais un peu bleutés, un peu opaques. Hein, c'est vrai que lui, il est parfaitement aveugle, malheureusement pour lui, parce que c'est un petit serpent qui est tout jeune, il a 5-6 ans, il peut avoir une trentaine d'années. C'est à cause des conditions de détention. Hein, qui a eu ses cités.
Je veux bien qu'on continue la visite, je te laisse le reposer tranquillement, je vais avec Joshua. Reptilian Protect a trois buts principaux. Le premier, c'est évidemment de recueillir. De plus en plus d'espèces de reptiles sont abandonnées par des particuliers ces derniers temps, notamment à cause de la hausse du prix de l'électricité. Et oui, ces grosses bêtes sont tropicales, on le rappelle, et vivent à des températures souvent comprises entre 27 et 40 degrés. Véronica explique recevoir une vingtaine d'appels par semaine de la part de particuliers qui souhaitent redonner leurs animaux, serpents, iguanes, tortues, mais aussi de plus grosses espèces. Le couple a par exemple pour projet d'aménager une piscine dans son jardin d'ici 2 à 5 ans, non pas pour s'y baigner entre deux boas, non, mais bien pour accueillir deux crocodiles du Nil. Alors l'idée derrière tout ça, c'est de faire connaître ces espèces pour éviter les achats coup de tête, les abandons, les lâchers sur la voie publique et les maltraitances.
Il y a trois pièces en fait en bas, principale. Donc là on était dans la première. Là on va dans la deuxième, donc la pièce centrale. Des terrariums, des plantes un peu partout aussi.
Le plafond bas,
des
lianes.
Des lianes, on essaye de recréer. Là, il y a la petite musique, on l'entend pas, mais les petits chants d'oiseaux pour eux toute la journée. Ils ont l'impression un peu d'être dans la nature, même si ça ressemble, c'est plus petit que leur nature, mais au moins qu'on ait un peu cette impression-là.
On parlait du fait que vous n'accueillez pas de public ici.
Effectivement.
De fait, découle une question qui est comment est-ce qu'on finance un endroit comme ça ? s'il n'y a pas de rentrée d'argent, de la part de visite, par exemple, d'un public.
On est un grand merci à la SPA, déjà. On ne va pas mentir. Hein. La SPA, ça a été la première organisme à accepter de tourner les yeux vers nous, de regarder un petit peu ce qui se passait, de ne pas dire non parce que c'était des reptiles, hein, d'accepter une différence animale et de porter le sigle SPA, protection des animaux, pour le coup. C'est vrai que ça a été le premier coup de pouce et le grand coup de pouce.
Et après, tout le énorme. Reste, honnêtement, on est...
C'est nous, c'est au fond perso, et puis des aides, après.
Des totalement autonome.
Ouais.
C'est ça, des petits dons, par-ci, par-là, ça aide, et puis nos activités à côté, depuis un an et demi qu'on met en place. On a formé pendant des années bénévolement, que ce soit des professionnels ou des particuliers, aujourd'hui c'est payant.
C'est ça, donc pompiers, gendarmes, vétérinaires, services vétérinaires, animaliers.
Et puis on monte une marque à côté, pour la Terrario, l'Aquario... de produits
adaptés,
faits par nous, tout à l'assaut, etc. On essaye de développer ça pour ramener des fonds et pouvoir faire vivre. Mais sinon, on est à perte. Hein. Il n'y a pas de... Si on ne fait pas de repro, voilà, c'est toujours pareil. On a des serpents ici qui valent un certain montant. On le sait, c'est pour ça qu'aussi on préfère avoir l'assaut à la maison. Simplement en termes de sécurité, on est là tout de suite, on est là tout le temps quasiment.
Oui, parce que nous, on voit des vies, et sait que les gens,
voient de l'argent. Donc en fait, en termes d'argent, si on veut parler humainement parlant en termes d'argent, on n'est pas malheureux. Ces serpents-là valent quelque chose. Maintenant, nous, on voit ça comme une vie, pas de l'argent.
Un endroit comme ça n'est pas du tout aidé par l'État, par exemple, de manière minime.
Peut-être cette année, on a eu la visite du député en fin d'année, en 2023, qui a eu la gentillesse de venir ici et puis de comprendre un peu ce qui se passait, le monde des reptiles, de voir où ça en était un petit peu, de voir ce marché qui est grandissant et qui ne s'arrête pas, et de voir l'ampleur des dégâts maintenant qu'on a laissé rentrer des animaux pour lesquels on n'avait pas de législation, on ne savait même pas les soigner, et on les a laissés rentrer dans nos foyers. Donc on est en train d'essayer de rattraper un peu ces erreurs-là, et le député s'en est rendu compte, merci à lui aussi d'ailleurs. Donc cette année, on a refait une demande de subvention auprès du conseil départemental et régional.
C'est ça.
Et on va voir ce que
c'est. On attend la réponse, ouais.
Je vous propose qu'on continue, qu'on aille voir la troisième pièce, et puis qu'on sorte du sauna. On a un grand vivarium vide, même plusieurs, un deuxième là-haut.
Alors un détail près, c'est qu'il n'est
pas vide.
Alors que tu ne le vois pas très bien.
On va ouvrir.
Je vais ouvrir gentiment juste pour que tu puisses le voir.
Ah non.
Attends. Non, tu ne vois pas là. Tu regardes. Allez, là. Viens. On va vous le montrer après.
Ah oui, d'accord. Ah oui, non, il est loin d'être vide, en effet. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un immense serpent. Là.
C'est ça. Alors, on a Kiam, c'était encore un python birman. Qui n'est pas albinos, qui fait un peu plus de 4 mètres pour à peu près 80 kilos. Donc, c'est un 75-80 kilos. Contrairement à Dagon, qu'on a vu tout à l'heure, donc l'autre python birman, l'albinos, qui lui fait 45 kilos pour 4 mètres 55. Donc, lui est un peu plus court. Par contre, il est beaucoup plus massif. Donc là, il emprunte le terrarium de deux de ses congénères qui sont, elles, en quarantaine, hein, parce qu'il fallait de la place pour le loger. Du coup, le temps de lui faire une installation bien à lui d'un peu plus de 20 mètres carrés, on va le laisser ici. Et emprunter le terrarium de ces deux copines.
C'est votre plus grosse bête?
Oui, en termes de poids, oui, complètement.
Que voilà. Je n'ai donc pas vu.
C'est ça.
Ce qui prouve la capacité de camouflage des serpents.
C'est ça. Kiam. Et attends, tu veux du son? Attends. Hey. Alors là, ce qu'on peut entendre, hein, c'est Kiam. Alors effectivement, cette espèce-là est connue pour souffler. Hein, dès qu'ils se défendent, ils ont peur. Lui, il fait partie d'un groupe de serpents qui a été dans de très mauvaises conditions là où il était, qu'on habitue doucement même à la main de l'être humain, qui a encore un petit peu de mal. Mais au final, c'est vrai qu'il souffle pour se défendre et pour dire qu'il prévient. Il prévient qu'il n'est pas content, il prévient qu'il a peur, surtout.
Donc ça fait partie de ton travail de venir le manipuler un peu comme ça. Et toi, parce que lui, je comprends qu'il ait peur. Toi ?
Non, pas du tout. Honnêtement, faut pas se dire qu'on a... Bah déjà, il faudrait que ce soit inné. J'ai pas vraiment peur d'eux, déjà, naturellement. Faut pas oublier qu'on est, nous, la plus dangereuse des espèces. Hein, et que s'il faut avoir peur aujourd'hui, ce ne sont pas des animaux, loin de là. Les animaux, ils sont adaptés à un environnement, encore une fois, comme on le disait, mais c'est vrai qu'ils sont pas si dangereux que ça. C'est nous qui causons des problèmes. C'est nous qui allons chez eux et qui bousillons leur forêt, c'est nous qui les ramenons ici et qui faisons n'importe quoi, c'est nous qui créons des lassos pour les prendre et les manipuler ou d'autres outils aux mauvaises manipulations. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas à avoir peur de ces animaux, par contre il faut rester consciente qu'il y a un danger, évidemment, qu'il y a une possibilité pour eux de nous étouffer, bien évidemment. Alors non, ils ne pourraient pas m'avaler, hein, mais voilà. Par contre, quand il prévient qu'il n'est pas content, il n'est pas content. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est notre travail aussi de les habituer, parce qu'ils ne peuvent pas vivre 30 ans en captivité et avoir peur de nous. Voilà, ça serait dommage qu'ils stressent pendant 30 ans. Hein, donc c'est vrai que lui, il va falloir qu'il s'habitue, et ça va être le cas, déjà, il souffle de moins en moins, même si on ne dirait pas, il souffle de moins en moins. Et puis nous, on est habitués à eux, ça fait très longtemps, alors on ne le voit plus, c'est cette taille, ce poids, on ne le voit plus du tout.
Est-ce que tu peux nous raconter une action de sauvetage en lien avec la SPA et un animal qui est autour de nous ?
Eh bien, tout simplement, au mois de mai, nous avons été sollicités par un herpétologue passionné et par un terrariophile à côté de ça, donc quelqu'un qui étudiait donc les reptiles dans leur milieu naturel, mais pas que, qui nous a sollicité très rapidement, de toute urgence, même pour prendre en charge plus de 25 serpents. Aujourd'hui, on a demandé un coup de pouce à la SPA pour nous appuyer financièrement pour les prendre en charge. La SPA a répondu favorablement, sans hésiter. Ça a été très rapide. Tout s'est enchaîné très vite et ça nous a permis d'aller les prendre en charge et puis mieux de faire quelque chose pour eux. Parce qu'on a récupéré dedans un boa qui avait une moitié de bouche complètement abîmée, qui avait été mangée par un rat. On a récupéré des animaux très abîmés malheureusement. Et du coup c'est vrai que... Et des gros animaux qu'il fallait pouvoir prendre en charge assez rapidement, qui nécessitaient des gros frais. La SPA n'aurait pas été là pour le coup, on ne pouvait pas les récupérer ces 25 serpents.
Et c'est aussi une histoire qui va dans les deux sens puisque... La SPA vous aide financièrement et vous pouvez parfois en échange soulager la SPA de certains animaux dans le cadre de saisies, par exemple.
Bien sûr.
De toute façon, même si c'est compliqué, on est d'accord tous les deux, la SPA, on a toujours une place pour un appel de la SPA, quoi qu'il arrive, tortue. On a eu combien de la SPA ? Deux qui nous ont amené ?
Oui, cette année, deux.
Deux, déjà. Et puis, on a toujours de la place pour la SPA, quoi qu'il arrive. On est toujours là pour eux, quoi. Ils ont été là pour nous quand on a demandé, parce que même une fois, on a des subventions de la SPA, du coup, on a eu un gros problème, on a demandé de tout nous donner en une fois. Comme tu dis, ils ont répondu favorablement, direct, pas posé de questions.
Ils ont pas posé la question, on a envoyé le dossier. On a envoyé le dossier avec les photos, avec tout ce qu'il fallait, qui expliquait la situation. Et honnêtement, non, ils ont encore une fois répondu favorablement.
Et donc, dès qu'il y a une demande de la SPA, on accepte.
C'est un juste retour.
C'est ça.
Voilà.
Est-ce que ici vous proposez des reptiles à l'adoption, reptiles autres d'ailleurs ?
Très rarement, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'une fois que les locaux sont pleins et qu'on arrive à un effectif maximal et qu'on ne peut plus en accueillir, mais qu'il y a des urgences qui se présentent à l'association, on ne les refuse pas. Avant, on les refusait, maintenant, on ne les refuse plus. Par contre, ils passent en quarantaine et là, dans ce cas-là, ils sont proposés directement à l'adoption. Pour les animaux qui sont en règle, qui sont en bonne santé, oui, qui ne posent pas de problème sur le plan de la légalité ou sur le plan d'autorisation, hein, et qui sont simples à détenir. Voilà.
Imaginons, moi, quidam au possible, je veux adopter un serpent. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je fais une bêtise ? Est-ce qu'il y a certaines races de serpents que je peux adopter et pas d'autres ? Est-ce que j'ai besoin d'un permis ? Comment ça se passe, tout ça ? Est-ce que c'est conseillé, ne serait-ce ?
Alors, en effet, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en vente libre aujourd'hui et qu'on peut trouver très facilement. Mais il y a beaucoup d'espèces qui sont également soumises. Hein, alors, soumises soit à des quotas, soit des autorisations particulières, donc certificat de capacité, en tout cas pour le cas de la France, et autorisation d'ouverture d'établissement. L'un ne va pas sans l'autre, hein, donc il faut absolument avoir les deux, ces deux autorisations. Ça, c'est un dossier qui se dépose, hein, auprès des services vétérinaires. C'est une demande qui est assez longue, hein, et qui est fastidieuse à mettre en place selon les espèces que l'on va demander. Et en fait, il va falloir penser à des choses. Déjà, ce sont des espèces dites longévives. Donc, qui vivent très longtemps. Donc, qui dit qu'ils vivent très longtemps, dit qu'on s'engage sur une petite couleuvre à vivre 15-20 ans avec elle, déjà minimum, hein, parce qu'on en a une qui a 28 ans, et donc on sait qu'ils peuvent largement dépasser ces âges-là, ces espérances-là. On s'engage sur vraiment minimum 15 ans, à part les caméléons, on est d'accord, certaines petites espèces comme ça, jusqu'à plus de 200 ans pour certaines espèces. Hein. Et du coup, il faut bien réfléchir, hein, surtout pour le cas des tortues, pour le cas des grosses longévités comme ça. On réfléchit bien. Il y a un budget à prendre en compte, ils ont des besoins spécifiques, ils ont des paramètres, hein, qui sont tous adaptés à leurs espèces, à leur environnement de base et d'origine. Donc, il faut prendre en considération les pays desquels ils sont endémiques, de façon à pouvoir relever toutes les infos et les données qu'on va pouvoir avoir qui sont sérieuses, afin de mettre en place au moins un écosystème conséquent, un écosystème correct et qui leur corresponde.
Quelle est la marge d'erreur avec ces animaux-là ? On sait par exemple que les rongeurs sont assez sensibles, notamment au courant d'air. Les chiens, les chats un peu moins. Avec les serpents, comment ça se passe?
Ce sont des animaux qui sont solides, mais par contre, ils ont besoin de paramètres spécifiques. Dès lors que l'on ne s'applique pas à ça et qu'on ne fait pas les choses sérieusement, on va directement vers des grosses pathologies, des pathologies lourdes, qui sont quelquefois invisibles. Et lorsqu'on a les premiers signes, c'est généralement trop tard. Et c'est que les maladies sont bien avancées. Et c'est en général très insidieux, dans le sens où les animaux ne vont pas forcément montrer de changement de comportement aux yeux des gens qui les observent en général assez peu. Et du coup, c'est vrai qu'on va souvent passer à côté. Enfin, on va. Il y a un vrai risque de passer à côté. Hein. Et du coup, on se retrouve des fois, en tout cas, à accueillir des animaux ici qui sont dans de mauvais états, dus à ces mauvaises conditions de vie. Et c'est très, très régulier. C'est souvent fatal à l'animal. Il ne faut pas oublier aussi que le stress est fatal pour ces animaux, hein, très rapidement, et que donc il faut se tenir à ces paramètres, et qu'au final, aujourd'hui, on en arrive à un point où il y a 75% des reptiles qui meurent au cours de la première année de détention en captivité. Donc il faut vraiment redresser le tir et essayer de faire les choses très sérieusement.
Puis il faut y penser aussi quand on a un reptile, c'est que faut un véto chien-chat, ça se trouve facilement. Hein. Tout le monde est véto chien-chat. Enfin, tous les vétérinaires le sont. Mais il y a très peu de spécialistes reptiles.
On retourne chez vous ?
Ouais, c'est parti.
La SPA a développé son centre de ressources qui lui permet d'aider des associations comme Reptilian Protect. Car au-delà de ce cas particulier, ce sont des centaines d'autres petits organismes qui sont soutenus par la SPA à travers deux dispositifs d'aide, le Fonds de solidarité et le Fonds de soutien aux associations de protection animale. En 2023, ça représentait la bagatelle de 306 associations. Alors pour vous l'expliquer plus en détail, voilà Maëlle Conant, responsable du centre de ressources du pôle SARA, ce qui signifie en bon français « sensibilisation aide relation homme-animal ». Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Alors Maëlle, tu nous accompagnes depuis tout à l'heure, tu es là avec nous à Chaumeau dans le refuge. Silencieusement tu nous suis.
Absolument.
Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Pourquoi est-ce que tu nous accompagnes ?
Alors du coup, moi je travaille pour la SPA pour un service qui s'appelle le centre de ressources en fait, qui est un espace à la SPA qui n'est pas dans le cœur métier de la SPA qui est de gérer des refuges, mais en fait qui vient apporter une aide à des publics extérieurs. Donc nous on s'occupe de tout ce qui va être les aides pour les associations, tout ce qui est chat libre et les aides pour les particuliers. Et on est deux à s'occuper de l'aide pour les associations de protection animale.
Pourquoi est-ce que la SPA aide les petites associations, les refuges comme celui dans lequel on est aujourd'hui ?
Alors du coup, la SPA effectivement gère ses refuges, mais déjà on n'est pas présent sur l'ensemble du territoire. Et puis aussi, la SPA gère une typologie d'animaux. Et en fait, toutes ces associations constituent un maillage qui est complémentaire au niveau de ses actions et du territoire. Et il est essentiel qu'on travaille main dans la main et que nous, on puisse venir aider financièrement ces assos-là, que ce soit sur leur fonctionnement, sur des projets, et puis aussi voilà, travailler en vrai partenariat, c'est-à-dire de pouvoir aussi prendre en charge des animaux de ces associations si elles en ont besoin. En retour, comme on est là aujourd'hui avec Reptilian, si on a un souci un jour avec un reptile, dans le cas notamment d'une réquisition, on sait qu'on pourra compter sur nos partenaires pour des typologies d'animaux que nous, on n'est pas en capacité d'accueillir. En fait.
Est-ce qu'on peut quantifier le nombre d'associations ou de refuges comme celui dans lequel on est aujourd'hui qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de financement, qui sont autonomes et qui ont peut-être besoin de l'aide de la SPA ?
Nous, ce qu'on sait, c'est le nombre d'associations qui vient vers nous pour, ouais. Pour nous demander de l'aide, le nombre d'associations qu'on peut aider chaque année. Voilà.
Et qui représente combien, tu sais, à peu près ?
Alors, du coup, pour l'année 2023, on a pu aider ces 306 associations. On est toujours un petit peu en augmentation. En 2022, c'était 289. 2021, 224, pour ne pas dire de bêtises. Donc voilà, on a une augmentation d'année en année. Et aussi, du coup, la SPA a pris un positionnement et une orientation stratégique cette année, puisqu'en fait, on va venir aider à haute fin. C'est ce qu'on appelle le 1% solidaire. En fait, on va pouvoir allouer 1% du budget total de la SPA pour ces dispositifs d'aide solidaire, donc pour les associations, mais pas que. Et du coup, ça démarre là en 2022. Et on se donne un pas de temps de 3 ans pour arriver à ce 1%.
Alors concrètement, comment ça se passe ? Comment est-ce que la SPA finance ?
Alors du coup, la demande vient toujours d'une association qui nous sollicite, nous, au niveau du siège, où les demandes peuvent aussi transiter évidemment par nos sites qui les connaissent, qui localement, il y a un contexte local, elles évoluent ensemble, elles se connaissent bien. Mais c'est au niveau du siège où les demandes vont être traitées. On a deux dispositifs, en fait, on en a un qui qui est un dispositif qui a une aide forfaitaire de 500 € qu'on appelle le fonds de solidarité, qui est un petit coup de pouce et qui en fait a été développé pendant le Covid pour venir aider ces associations-là de façon facile.
C'est 500 € en une fois.
500 € en une fois, c'est un dossier assez facile à remplir et qui est vraiment pour une aide qui est une aide ponctuelle pour venir pallier à une urgence, à un besoin, pour soutenir une association, par exemple Chalib qui fait une campagne et qui aurait besoin d'aide. Donc ça, c'est le premier dispositif. Pour celui-ci, en fait, le dossier doit être parrainé. En fait, vraiment, on veut créer du lien avec nos sites sur le territoire. Donc c'est le responsable de site du territoire qui parraine la demande, qui connaît l'association ou qui va à sa rencontre et qui ensuite nous transmet le dossier. Et le dossier est ensuite validé par la présidente de la commission des aides. Pour le second dispositif, c'est un dispositif qui est plus fourni. On demande des éléments financiers, des éléments de rapport d'activité, des prévisionnels d'activité. On demande tout un tas d'informations et on va venir de façon approfondie en fait, connaître l'association.
Parce que l'aide est plus conséquente.
L'aide est plus conséquente. En fait, l'association peut demander un montant libre, mais allant jusqu'à un maximum de 5 000 €.
C'est entre 500 et 5 000.
Entre 500 et 5 000. L'association dépose son dossier. Nous, on va venir l'étudier avec Marie, si on rappelle l'association, vraiment on échange avec elle pour comprendre son projet, pourquoi elle a besoin de nous et bien la connaître. Et ensuite, de façon peut-être pas mensuelle, mais assez régulièrement, on a une commission des aides qui se réunit. On présente les dossiers et cette commission, elle est composée d'élus au conseil d'administration de la SPA, elle est composée du directeur de l'expertise animale, de plusieurs membres de la direction de l'expertise animale et nous, au sein du centre de ressources, les personnes qui cherchent les dossiers aussi.
Le conseil des sages, quoi.
On se réunit, on présente les dossiers et on propose un montant d'aide au regard du projet, du besoin et bien évidemment d'un budget disponible qui n'est pas infini.
Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ces aides-là ?
Alors, déjà, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables, donc on peut demander une aide par association par an. Et on vient aider, en fait, effectivement, les associations de France métropolitaine et des DROM, donc des départements et régions d'outre-mer. Et la condition pour pouvoir prétendre à une aide, c'est que l'association ait un an d'existence. Un an d'existence, comme on le sait, c'est grâce à la déclaration faite au journal officiel. C'est cette déclaration qui fait foi sur la création de l'association.
Et soit sur le territoire français.
Territoire français, donc France métropolitaine et DROM, département et région d'outre-mer.
Concernant Reptilian Protect, par exemple, comment est-ce que la SPA leur est venue en aide ? Est-ce que j'imagine que c'est Véronica qui a pris contact avec vous et ensuite ça s'est déroulé ?
Oui, donc c'est ça. Donc Véronica, tu étais venue vers nous. Enfin, vous êtes tous les deux venus vers nous pour déposer la demande. Et donc, du coup, nous, classiquement, on a transmis un dossier, etc. Par contre, effectivement, nous, les associations qu'on aide depuis plusieurs années, on vient les visiter au bout de 3 ans pour regarder comment va l'association, comment l'aide est utilisée, est-ce qu'on peut pas venir les aider autrement aussi que par une aide financière. Ici, en fait, pour Reptilian, et on est sur des reptiles, des animaux que nous, on connaît moins aussi, et qu'on n'a pas l'habitude de prendre en charge, on a du coup décidé de faire une visite préalable, en fait, pour venir ici vous rencontrer, avant de présenter le dossier, et aussi dans une idée de mieux comprendre l'association. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc c'était en 2022, et du coup, l'aide a été reconduite l'année dernière, il y a eu un nouveau dossier, et puis voilà.
Est-ce que tu as d'autres exemples d'associations aidées ?
Oui, on en a beaucoup.
L'Amical Chat.
Amical Chat,
qui est blanc.
Alors, Amical Chat, qui est un sanctuaire, effectivement, pour chats, chats âgés, chats à grosse pathologie, qui est situé dans le 66. Donc, ils prennent en charge des chats que les personnes ne pourraient pas forcément avoir chez eux. Pour leur offrir vraiment une belle qualité de vie. Le Licol Blanc, qui est une association en fait, d'équidés, qu'on aide également. Et je pense aussi, en fait, on aide aussi des centres de soins de faune sauvage, qui sont des centres qui prennent de la faune sauvage, qui les soignent et qui les relâchent. C'est pas un refuge, ils ne gardent pas les animaux. Et donc, dans ces associations-là, on aide effectivement le centre de soins de la faune sauvage Poineville, à côté de pas très loin de Châtellerault.
Tu le disais tout à l'heure, en 2023, c'est 306 associations aidées, ce qui représente la bagatelle de 290 000 euros environ d'investissement. Tout ça, c'est en progression. Ça continue, les aides affluent.
Eh ben, on a la chance, effectivement, d'avoir un budget qui l'a... et puis, ça a été vraiment voté. C'est une orientation stratégique de pouvoir renforcer notre aide. Mais effectivement, oui, cette aide pour les associations est en constante augmentation, évolution depuis ces dernières années. Et on est très content de pouvoir aider les associations. C'est vraiment quelque chose d'important pour la SPA.
Et voilà, merci de nous avoir suivis en Bourgogne, à Chaumont, dans cette grande maison et ce beau projet qu'est Reptilian Protect. Merci à Véronica et Joshua pour leur accueil, leur savoir-faire et surtout leur amour des reptiles. On va vous faire une petite confidence. Si un jour il vous prend de savoir quel bruit sort de la bouche d'un crotal diamantin de l'Est, il vous suffira d'appeler Véronica, puisque c'est sa sonnerie de téléphone. Reptilian Protect est le fruit d'un engagement de tous les jours, sans vacances, mais avec l'objectif de parvenir à long terme à protéger et à préserver les reptiles. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle grande balade.